Hors champ. Hors-champ, bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Hors-champ ce soir en compagnie de Michaël Ferrier. Michaël Ferrier, vous êtes écrivain, vous êtes essayiste, enseignant, vous avez publié beaucoup de livres, La Tentation de la France, Céline et la chanson, Kizu, La Lézarde, Tokyo, Petit portrait de l'aube, Le goût de Tokyo, Notes sur Fukushima, très récemment donc Mémoire d'outre-mer. Votre vie a basculé quand vous avez décidé de venir vivre, et d'après ce que j'ai compris en lisant vos textes, de vous établir peut-être définitivement au Japon. Le Japon est devenu votre terre presque natale, mais avant tout cela, il y avait eu un grand-père. Et ce grand-père, c'était un impensé de l'histoire familiale, et il a fallu un certain âge, je ne dis pas un âge certain, vous avez quel âge, 40 ans ?
Non, un peu plus.
45 ?
Un tout petit peu plus.
48, allez.
Voilà, ça pile de poil dessus.
Pour retrouver la trace de ce Maxime.
Oui, ben ça fait longtemps qu'on le cherchait, le grand-père.
C'est en parlait en quels termes ?
Ben c'est un personnage, pour moi c'est un personnage, il est insaisissable, mais il est insaisissable parce qu'il est vertigineusement libre, voilà. Et donc, effectivement, il a fallu plusieurs années, pratiquement une dizaine d'années de recherche pour en trouver quelques traces. Et encore, il y a beaucoup de mystères qui n'ont pas été éclaircis. Et puis, tant mieux d'ailleurs, parce que c'était aussi sa façon de vivre.
Alors, pourquoi quitte-t-il sa famille si jeune aller si loin?
C'est le premier mystère. Il le quitte parce qu'il a 17 ans et parce qu'on n'est pas sérieux quand on a 17 ans, peut-être. On a parlé aussi de problèmes avec la police. Partout où il passera, de toute façon, il aura des problèmes avec les autorités. Mais ça pose une question qui est terriblement d'actualité, d'ailleurs, que je ne savais pas lorsque j'écrivais le livre que cette question reviendrait sur le devant de la scène ainsi. Pourquoi part-on? Pourquoi migre-t-on? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on trouve? Qu'est-ce qu'on fuit? Qu'est-ce qu'on espère? Donc, peut-être lui, tout simplement, il y a un chapitre du livre qui s'appelle « Un homme qui part ». Bien, peut-être lui, tout simplement, c'était un homme qui part, c'est-à-dire il avait en lui cette chose que nous avons tous, mais que certains réfrènent, qui est cette envie de partir, de foutre le camp, comme on dit, de partir sans demander son reste. Voilà, j'aime bien cette expression « on part sans demander son reste ».
Mais pourquoi part-il là-bas?
Alors lui, il part dans un cirque itinérant. Il se fait embaucher comme acrobate. Et donc, ce cirque itinérant, normalement, il fait tout l'océan Indien. Il part de l'Inde et il fait le canal du Mozambique, les Mascareignes, les Comores et également Madagascar, qui est la grande île de l'océan Indien. Et il se trouve que lorsque le cirque arrive à Madagascar, la propriétaire du cirque, Madame Bartolini, une Italienne, comme son nom l'indique assez, eh bien, Madame Bartolini se barre avec la caisse, elle s'en va, elle laisse tout le monde en plan. Et donc, les gens du cirque, les clowns, les acrobates, les trapézistes, les écuyères, tout le monde reste à Madagascar et chacun se débrouille. Et Maxime, en bon acrobate, sait rebondir. Il va devenir dessinateur et puis ensuite, il va faire du commerce, ce qu'on appellerait du commerce informel, c'est-à-dire il va vendre tout et n'importe quoi. Et finalement, petit à petit, il va s'en sortir et il va faire sa vie à Madagascar, comme ça.
Et il devient malgache.
Alors, il ne deviendra jamais malgache. Il est né à l'île Maurice, donc il est mauricien. Jamais Madagascar ne lui accordera la, la nationalité malgache après 1960 et avant 1960.
Pourquoi ? Parce qu'il se fait enterrer là-bas.
Oui, mais il y a beaucoup de gens qui se font enterrer sans pour autant avoir la nationalité. Non, c'est tout simplement avant 1960, comme vous le savez, Madagascar est colonie française. Avoir la nationalité française pour des gens qui vivent dans les colonies, ça n'a jamais été quelque chose de simple. J'en parle beaucoup dans le livre. Et après 1960, eh bien, finalement, le nouvel État indépendant de Madagascar ne lui accordera pas plus la nationalité malgache que le colonisateur français ne lui avait accordé la nationalité française. Ceci dit, je pense qu'il n'en avait absolument rien à faire, qu'il ne se définissait pas selon la nationalité. D'ailleurs, je mets en exergue une phrase d'Aimé Césaire, en exergue de ce livre « Mémoire d'outre-mer », c'est une phrase magnifique. Aimé Césaire disait « Je ne suis d'aucune nationalité prévue par les chancelleries ». Voilà. Il y a des gens encore aujourd'hui qui ne sont d'aucune nationalité prévue par les chancelleries. Ça ne les empêche pas, par ailleurs, d'avoir une carte d'identité, voire plusieurs, mais il y a quelque chose qui ne passe pas, faut-il le rappeler encore aujourd'hui, ne passe pas forcément par l'assignation identitaire à une nationalité.
Alors, à travers la description de cette généalogie familiale, à travers la résurrection de ce personnage extraordinaire qui était votre grand-père, votre livre navigue, c'est le cas de le dire, dans les vents du métissage et de l'éloge de ce métissage. Et vous, vous vous sentez quoi ? Sans mêler, Michaël Ferrier ?
Oui, mais comme tout le monde, ou comme le tout le monde, comme disait Édouard Glissant.
Pas tout le monde.
Mais disons
que tout le monde ne se sent pas. Sans mêler.
Oui. Mais ce qui m'intéressait là, effectivement, la problématique du métissage est présente dans le livre. D'abord par le lieu. L'océan Indien est un océan assez petit, le plus petit océan du monde, nous disent les experts. Ça n'a rien à voir avec l'océan Atlantique, qui est une grande barrière d'eau infranchissable. Il faut des bateaux, il faut des murs. On va faire le mur de l'Atlantique. Là, non, on est dans un petit océan, c'est-à-dire un océan qui met en relation, qui met en circulation depuis plusieurs millénaires des hommes, des pratiques, des marchandises, des langues. Et donc ça m'intéressait énormément, c'est-à-dire comment ce lieu, ce site, était finalement depuis très longtemps un avant-poste de ce que nous appellerions aujourd'hui la mondialisation. Donc la problématique du métissage se trouve posée de cette manière-là. Mais ce qui m'intéressait, c'est en dehors de cette problématique-là, c'était surtout de voir... C'est une histoire familiale, hein, vous l'avez dit. C'est l'histoire d'un grand-père. Mais ce grand-père, en plus, c'est un personnage romanesque, hein, flamboyant. Le lecteur verra, s'il ouvre le livre, que c'est vraiment un drôle de gaillard. Mais la problématique familiale, enfin, la saga familiale ne m'intéressait pas tant que cela. C'est-à-dire que même si ce personnage de Maxime est flamboyant, romanesque, je pense que je n'aurais jamais écrit ce livre s'il n'y avait pas, à un moment donné, un croisement de cette petite histoire, disons, de cette histoire individuelle ou familiale, avec la grande histoire, l'histoire avec sa grande hache, comme disait Pérec. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va y avoir la guerre, 39-45, il va y avoir l'application des lois anti-juives du régime de Vichy jusqu'à Madagascar. C'est quelque chose qui est assez méconnu.
Il y a quelques ouvrages qui commencent à apparaître sur ce sujet.
Oui, tout à fait, notamment Eric Jennings, que j'ai plaisir à citer, parce qu'il m'a beaucoup aidé, sans le savoir à l'époque, maintenant il le sait, avec son livre magnifique qui s'appelle « Vichy sous les tropiques ». Mais voilà, donc, si vous voulez, ce qui m'intéressait, c'est l'intersection entre la petite histoire et la grande histoire, d'une certaine manière. C'est-à-dire le moment où nos vies à nous, nos vies d'êtres humains, d'individus, se trouvent embarquées dans quelque chose qui nous dépasse absolument. Finalement, il y a là un lien avec le récit, non pas le roman, mais le récit que j'avais fait à propos de Fukushima, où finalement on retrouvait ce type de problématique, l'intersection entre des vies qui tout d'un coup, l'intersection entre des vies et la grande histoire, tout d'un coup un tumulte qui s'empare de nos corps et que se passe-t-il à ce moment-là ?
Alors on reviendra sur Fukushima, mais je voudrais revenir à cette obsession que vous avez dans la plupart de vos livres, Michaël Ferrier, sur cette frontière finalement invisible entre la terre et la mer. Dans vos notes sur Fukushima, il est beaucoup question de cette frontière avec le drame qui a eu lieu et l'explosion nucléaire et les centrales nucléaires qui sont justement au bord de la mer. Mais aussi, dans ce dernier ouvrage, il y a ces deux tombes.
Il y en a trois même.
Il y en a même trois qui sont au bord de la mer.
Oui, c'est un cimetière marin. Il s'appelle le cimetière de la Corniche, donc comme son nom l'indique, il est sur une corniche au bord de la mer. Et effectivement, vous avez raison, c'est un endroit un endroit liminal, liminaire, c'est-à-dire un endroit de la limite. Nous sommes à une frontière. Et il me semble que dès que l'homme se trouve à une frontière, ou dès que des institutions ou que des bâtiments se trouvent à une frontière, il me semble que ça vibre, ça tremble. On ne sait plus finalement si on est déjà sur la mer ou si on est encore sur la terre. Et là, ça m'intéresse. C'est-à-dire cet endroit-là de passage, de friction aussi. Ce n'est pas forcément un endroit paradisiaque. Mais ces endroits-là, effectivement, m'intéressent énormément.
Vous êtes un peu borderline, comme on dit. Vous aimez bien les fêlures, vous aimez bien les multiples identités, y compris à l'intérieur de l'écriture de vos propres récits, qui sont à la fois des essais, des cartographies, des navigations. Vous aimez bien la nuit, vous aimez bien boire, vous aimez bien les petits matins où vous rentrez un peu halluciné. Et je me demande si tout cela, cette espèce d'état second qui vous habite, en tout cas dans l'écriture, ne vient pas de vos années d'étudiant, quand vous avez commencé à soutenir votre thèse et à travailler sur Louis-Ferdinand Céline. Votre sujet, c'était Céline et la chanson. Nous allons l'écouter, chanter règlement, en imitant le français populaire de Clichy.
Je te trouverai charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe peut prendre du chaud. Tu verras, c'est une belle assistance. Tu verras voir comment que l'on danse au grand cimetière des bons enfants. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est au diable ta sorte, car d'offre m'importe, au malfrat tes crosses que le vent emporte, feuille morte, souci. Depuis des pays que tu râles, que t'es cocu, que je suis ton voyou responsable, que t'en peux plus. Va pas loper l'occasion unique de respirer. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Viens voir avec moi si ça pique aux grandes osselettes du Saint-Manté. Mais voici tant d'enfance et son petit Léo. Voici Clémentine et le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, car d'offre m'importe, au malfrat tes crosses que le vent emporte, feuille morte, souci. C'est pas des nouvelles que t'en croques, que t'es pourri, que les bourmanilles te suffoquent par ta bélie. C'est comme ça qu'a tombé Mimi dans le grand panier. Tu vas voir ce joli coupe-fil que je vais tourner dans l'araignée.
Alors j'imagine, Michael Ferrier, que vous connaissiez cette archive qui date de 1955.
Oui, je la connais très bien parce que j'ai travaillé dessus pendant ma thèse, effectivement, qui portait sur Céline et la chanson. Et il faut dire un mot peut-être de cet enregistrement qui est incroyable, parce que là, ce que nous venons d'entendre, c'est donc une des deux chansons écrites par Céline lui-même. C'est lui qui a fait les paroles et sans doute la musique, même si la musique a été signée ensuite par quelqu'un d'autre. Et donc, ça se passe... il a écrit ses chansons dans les années 30, après le succès de Voyage au bout de la nuit. Il voulait absolument les faire chanter. Il a contacté les grandes vedettes de l'époque qui ont toutes refusé. Et après la guerre, longtemps après, à un moment donné, il y a un enregistrement en studio, comme on le fait aujourd'hui, avec Arletty et Michel Simon, qui étaient deux amis de Céline. Et Arletty et Michel Simon étaient venus lire des passages de Voyage au bout de la nuit et de Mort à crédit. Et à ce moment-là, après avoir lu les textes de Céline, quelqu'un propose à Céline de chanter ses chansons. Et il les chante, tenez-vous bien, pratiquement 30 ans après les avoir écrites. Il va chanter les deux chansons a cappella. A cappella, parce que ce que nous avons entendu, l'accordéon a été enregistré, a été mis ensuite, c'est ce qu'on appelle un re-recording. On a reposé l'accordéon, la musique, sur le chant de Céline. Donc ça veut dire qu'il s'en souvient par cœur. Il les chante avec cette espèce de gouaille. Alors, vous avez dit Clichy, oui, Clichy, Courbevoie. Il est natif de Courbevoie, Céline. Et c'est une chanson qui est extraordinaire, où il y a de l'argot, il y a des souvenirs de Bruant. Et il y a de la hargne, on le sent bien. Et en même temps, il y a un mélange de hargne et de tendresse dans cette chanson. C'est Céline tout craché, quoi.
Et puis, c'est la musique qui parcourt votre travail d'écrivain depuis le début. Donc, l'universitaire, c'était la thèse sur Céline et la chanson. Et puis après, tous vos livres, y compris le dernier, sont scandés par la musique, par des syncopes, par des ruptures, par des improvisations, par des fugues. C'est jamais linéaire, votre écriture. Elle procède par fragments. Et puis, on vous suit. C'est pas que vous fassiez de l'autofiction, mais en même temps, vous vous mettez pas en scène, mais on vous accompagne dans vos pérégrinations. Et il y a ce livre qui s'intitule « Sympathie pour le fantôme », et le fantôme, c'est aussi un terme musical.
Exactement, ouais. Il y a la musique, évidemment, est quelque chose de très important dans ma vie, dans mon écriture. Alors, c'est paradoxal parce que, justement, dans cette thèse dont je parlais, je disais que la comparaison entre la littérature et la musique est souvent un peu un cache-misère théorique. C'est-à-dire qu'en fait, quand on n'a pas grand-chose à dire sur un écrivain ou quand on n'arrive pas à cerner de manière suffisamment efficace pourquoi il est un grand écrivain et pourquoi ce style nous interpelle, eh bien souvent on dit ah, il a un style musical. Et n'importe qui a un style musical dans ce cas-là. Donc la comparaison musique-littérature, je m'en suis longtemps méfié, je m'en méfie toujours d'ailleurs. En revanche, il est certain que dès qu'on vit dans la musique, moi j'ai eu une formation musicale au piano, à la guitare et au xylophone notamment, et dès qu'on vit dans la musique et qu'on écrit en même temps des livres, à un moment donné, il est évident que les deux univers sont amenés à se recouper. Et alors j'essaye de pousser assez loin ce recoupement, cette intersection. Par exemple, dans Mémoire d'Outre-mer, tout le début du livre qui se passe dans le cimetière est construit vraiment, mais j'allais dire méthodiquement, en tout cas très consciencieusement, à la manière d'une ouverture d'opéra. Donc on va entendre exactement comme dans une ouverture d'opéra, on entend des airs qui ensuite vont revenir repris et amplifiés dans chaque scène de l'opéra. Dans le début de Mémoire d'Outre-mer, on, par exemple, il y a des prénoms qui arrivent, Willy, Francis, etc., etc., et qui sont des prénoms très énigmatiques au début, mais qui vont ensuite être repris dans le courant du texte, dans le courant de la narration, qui vont être développés, redéveloppés, donc un peu à la manière dont, dans une ouverture d'opéra, on trouve les thèmes qui vont ensuite nourrir toute l'œuvre.
Nous allons écouter la voix d'Edouard Glissant, c'était au micro de Marie-Hélène Freissé, le 12 mars 1994, qui va parler de la complexité de son œuvre et de la complexité de la littérature en général. Édouard Glissant étant une de vos figures tutélaires, un de vos principaux modèles.
Comme disait, je crois que c'est Michel Butor qui disait ça, c'est pas moi qui suis compliqué, c'est le monde. Quand la littérature se donne pour objet ou non réalisable ce que j'appelle le chaos au monde, l'emmêlement du monde actuel, et qui est la visée même de la créolisation, on ne peut pas formuler ça avec des évidences et des certitudes ni des clartés. N'est-ce pas ? Il faut vivre le maelstrom, il faut vivre la complication, il faut vivre tout ce ballon du monde, tout cet élan du monde. Il faut aller jusqu'au bout de cela avant de trouver, disons, des lieux de clarté. Mais les lieux de clarté, si vous les donnez d'abord, c'est comme si vous donniez un schéma du monde, une idée, et non pas l'épaisseur trouble et finalement difficile à apercevoir du monde. Et je me méfie des œuvres qu'on comprend trop vite. Elles s'évanouissent aussi vite. Je ne dis pas que mes œuvres ne vont pas s'évanouir, ce n'est pas ça le problème. C'est un problème de méthodologie. Les œuvres évidentes et faciles et claires produisent une grande jouissance dans l'instant et puis s'évanouissent et il n'en reste presque rien ni dans la conscience ni dans l'inconscient du lecteur. Moi, je crois que la littérature doit avoir un autre but. Et c'est pour cela que je n'ai jamais craint la complexité. Mais je crois aussi qu'il y a de plus en plus un public qui comprend progressivement cette complexité et qui l'élucide pour lui-même. En tout cas, je connais des gens qui ont élucidé la prétendue complexité de mes premiers ouvrages à tel point qu'ils me disent maintenant « Oh, mais c'est un peu trop simple, hein, ce que tu dis là, etc. » C'est-à-dire que ce n'est pas un critère en fonction duquel il faut évaluer une œuvre littéraire. Après tout, hein, si c'était cela, Mallarmé ne serait pas un poète, et c'est un des plus grands poètes français. Parfaitement opaque et parfaitement complexe.
Nous venons d'entendre la voix d'Édouard Glissant au micro de Marie-Hélène Fraissée. Édouard Glissant, qui est au cœur de votre écriture, Michaël Ferrier, à la fois par la composition architecturale de vos livres, à la fois par le tempo, la scansion, le mode de déconstruction ou de fragmentation, pas de récit linéaire chez vous, mais des fugues, des vagabondages, des échappées belles.
Oui, des digressions.
Mais enfin, alors, apparentes digressions.
Des apparentes digressions, exactement, parce qu'en fait, tout cela est construit quand même de manière... En tout cas, j'y passe du temps et il y a de la construction, il y a de l'organisation derrière. Par exemple, dans Mémoire d'Outre-mer, on a l'impression comme ça que c'est une biographie mosaïque. Et en fait, si vous regardez bien, c'est construit un peu à la manière d'un chapiteau de cirque. C'est-à-dire que...
Comme le grand-père.
Exactement. Et donc, il y a des cordes. Dans un chapiteau de cirque, vous avez plusieurs sortes de cordes. Vous avez le filin simple et nu du funambule. Vous avez les ficelles burlesques des clowns. Vous avez les lassos des écuyères. Vous avez les lanières des dompteurs. Vous avez toutes sortes de fils, de filins, de cordes. Et moi, eh bien, j'ai essayé de faire une construction un peu de cette manière, c'est-à-dire... plusieurs cordes narratives qui vont s'entremêler, qui vont repartir, qui vont se toucher, se croiser. Et c'est un peu un travail de dentelle. Et ça demande du doigté, ça demande de la finesse. Et évidemment, alors là, Glissant a tout à fait raison dans ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on peut avoir l'impression au début qu'on ne sait pas tellement où on va, ni comment on y va. Mais j'espère que le temps fera son œuvre. Et Glissant a raison également de dire que Il le dit très bien, il dit « Au début, on me disait que moi, Édouard Glissant, ce que j'écrivais était très compliqué, était opaque, était obscur. Et maintenant, finalement, on a compris. » Donc c'est ça, les grands écrivains, c'est ça. Et Dieu sait qu'Édouard Glissant est un grand écrivain, un immense poète, un romancier considérable et un philosophe tout à fait essentiel. Eh bien, les grands écrivains comme ça nous aident à lire le monde, à lire l'univers. Et c'est pas évident, c'est pas facile. Le monde est d'une grande complexité et il faut pouvoir le suivre, il faut pouvoir se hisser à la hauteur du monde, ce que Glissant a réussi de manière magnifique. Ouais.
On a l'impression que la tentation du déplacement, pas seulement géographique mais mental, vous est nécessaire. Que vous est-il arrivé le jour où vous êtes arrivé à Tokyo? Et pourquoi le Japon vous est aujourd'hui indispensable, y compris comme moteur d'écriture?
Alors, le jour où je suis arrivé au Japon, c'était par Kyoto et ensuite, effectivement, par Tokyo. D'abord, il faut dire que c'était au hasard. C'était pour faire mon service militaire. J'aurais pu le faire ailleurs. Il se trouve que je n'avais alors, pour le coup, aucun tropisme particulier vers le Japon, aucun désir de Japon particulier. Je vois, par exemple, qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, de jeunes gens surtout, qui sont biberonnés, si j'ose dire, au manga, au cosplay ou à d'autres facettes de la culture japonaise. Ce n'était pas mon cas. J'y suis arrivé dans un état de relative indifférence. En revanche, dès que j'ai posé le pied sur l'archipel, j'ai su que quelque chose était en train de se passer. Alors, que s'est-il passé? C'est la question que vous me posez. Je dirais que le jour où je peux répondre à cette question, il sera temps de partir. Il sera temps de décoller, d'aller voir ailleurs. C'est cette part d'opacité dont parlait Glissant. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où, dans ce pays, quelque chose me retient, me fascine, que je ne comprends pas, ou que je ne comprends qu'à moitié, ou que je crois parfois avoir compris. Mais beaucoup de gens qui vivent au Japon depuis longtemps vous diront cela, ou dans d'autres pays. D'ailleurs, le Japon n'a pas l'exclusivité de ce type de comportement. Et donc, voilà, c'est un pays où je suis bien, où je me sens bien. Je dis souvent que c'est devenu mon biotope. Et aussi, je m'y sens bien parce que je m'y retrouve d'une certaine manière, mais aussi parce que je m'y perds. Voilà. Et j'aime beaucoup cette idée d'un pays inépuisable d'une certaine manière, parce que où qu'on aille, on découvre toujours de nouvelles choses dans la géographie, dans l'histoire. Dieu sait que c'est un pays qui a une histoire très complexe et dans la culture, évidemment. Donc c'est un pays, oui, c'est un pays inépuisable. Et c'est cet inépuisable-là que je tente de parcourir.
Tokyo se déploie de telle manière qu'un séjour un peu prolongé, Tokyoïte ininterruptus, provoque une altération notable des facultés spatio-temporelles. Voici ce que vous écrivez donc dans Sympathie pour le fantôme. Elle modifie la portée de vos convictions sur la réalité, illusion du souvenir, fantôme vivant rôdant dans les ruelles, croyances délirantes, et donne à vos propos, à votre démarche et à vos pensées une tournure inhabituelle. Il faut vraiment aller à Tokyo pour pouvoir se décentrer et ne plus faire corps avec soi-même. Il faut, comme vous manifestement vous le pratiquez, boire de l'eau de vie de prune jusqu'à 5 heures du matin dans des vieilles petites maisons en bois au cœur de Tokyo.
On n'est pas obligé,
jusqu'à chanceler.
On n'est pas obligé forcément de le faire à Tokyo. Hein. Chacun a son pays ou
ses
pays.
Ça a l'air d'être quand même super excitant à Tokyo.
Alors, vous avez raison. Il y a quand même, depuis assez longtemps maintenant, et notamment dans la littérature française, il y a quand même une attirance pour le Japon en général, pour Tokyo en particulier. Et il y a tous ces gens qui sont venus au Japon. Et là, je parle de très grands intellectuels. Et pour qui le Japon a changé et, je dirais, a ouvert quelque chose. Je pense évidemment à Roland Barthes. Quand Roland Barthes arrive au Japon, c'est un moment clé dans son œuvre. Il y a quelque chose qui se déplace, il y a quelque chose qui bifurque, il y a quelque chose qui s'ouvre et c'est l'Empire des signes qui arrive. Foucault, on le sait moins, mais quand Foucault arrive au Japon, c'est aussi un moment charnière, je trouve, dans sa pensée, où il va réévaluer beaucoup de ses réflexions antérieures. Et on pourrait ainsi multiplier les exemples, Michel Butor notamment, ou alors parmi les autres écrivains, des gens comme Bouvier, comme Michaud, Henri Michaud, qui avait écrit dans Un barbare en Asie. Il avait écrit un chapitre qui s'appelait donc Un barbare au Japon, dans lequel il était, mais alors, assassin envers le Japon. Et puis, petit à petit, au fur et à mesure des rééditions d'Un barbare au Japon, Henri Michaud, par des notes en bas de page, par des réécritures, par une préface à la fin, Henri Michaud réévalue complètement l'importance de ce pays pour lui-même. Donc c'est quelque chose que j'ai un peu étudié dans le livre que vous citiez tout à l'heure, La tentation de la France, la tentation du Japon, qui était paru chez Piquet il y a une dizaine d'années maintenant. Et c'est quelque chose qui est tout à fait étonnant de voir comment le Japon occupe sur la cartographie de nos grands écrivains et de nos grands penseurs, occupe une place tout à fait spécifique, tout à fait précieuse, en fait.
Nous allons écouter Paul Claudel, qui a été longtemps donc ambassadeur de France à Tokyo pendant, je crois, 2 ans.
Je ne sais plus exactement, mais je l'avais oublié, lui. Mais alors, très important aussi, le Japon pour Claudel, évidemment, pour sa poésie, pour son théâtre. Le Soulier de Satin a été écrit en grande partie à Tokyo.
Il va évoquer ses souvenirs du séisme de 1923, lisant un extrait de son journal. Donc c'est une archive du 3 juin 1950. Paul Claudel, le séisme de 1923 au Japon.
Yokohama est détruit, de la mer aux collines de Kanagawa, à l'exception d'une maison unique qui dresse gauchement près de la gare de Sakuragicho, son bloc luisant de céramique, tout est vide. La capitale de la soie a péri. De tous les brillants échevaux blancs et jaunes, il ne reste plus que quelques ballots qui trempent dans une boue immonde, quelques torsades que les coulisses se sont nouées autour des reins. Toute l'œuvre des étrangers au Japon depuis 50 ans, car c'est eux qui ont fondé Yokohama et qui en ont fait le plus grand port du pays, s'est effondrée en quelques heures. Le premier mot que me disent mes compatriotes avant même de me parler de leur malheur personnel est celui-ci, la soie ira maintenant à Kobe. Tout le quartier des étrangers, toute la ligne des édifices du quai, avec ses 2 hôtels remplis de passagers, se sont abattus au premier choc. Le consulat français s'est littéralement dissous, ensevelissant sous ses ruines mon pauvre ami Desjardins. Je l'ai retrouvé étendu sur une charrette, la face déjà noire et tuméfiée, les jambes tordues. Un pillard lui avait pris ses souliers et le drap dont nos marins de l'André Lebon l'avaient couvert. Seul se dressent encore ça et là, au milieu d'une vapeur infecte, quelques entrepôts calcinés, pareil au four maudit de l'antique Baal. Les 2 jetées se sont effondrées et l'on dit que le fond de la mer lui-même s'est modifié. De nos 2 grandes œuvres françaises, le couvent de Saint-Maur et le collège de Saint-Joseph, il ne reste rien. 10 sœurs ont péri sous les décombres de la chapelle. À droite, on voit d'énormes colonnes de fumée noire. Ce sont les incendies du grand port de guerre de Yokosuka. À gauche, une montagne de bronze éclairée d'une lumière rougeâtre. C'est Tokyo qui brûle. À Tokyo, les 3/4 de la ville détruits, 400 000 maisons, 1 500 000 personnes sans abri, 70 000 cadavres relevés jusqu'à ce jour. C'est ici la capitale, la partie essentielle du pays, là où plus encore qu'à Paris se sont concentrées toutes les richesses, toutes les forces motrices, toute la joie, toute la science. Le Tokyo historique des bas quartiers, le pays légendaire des roseaux le long de la Sumida qui vit s'élever les premières huttes de Yedo, avant que les Tokugawa enfissent leur forteresse, à partir des hauteurs de Kudan où se dresse la porte de bronze dédiée aux morts de la victoire, à partir des murailles cyclopéennes qui entourent le château impérial jusqu'à la mer, n'est plus qu'un désert de cendres rougeâtres parsemées de feuilles de zinc.
Dans votre livre, Michel Ferrier, qui s'intitule « Fukushima, récit d'un désastre », vous citez Paul Claudel, qui en 1923, on vient de l'entendre, ambassadeur de France au Japon, s'indignait, je cite les propres termes de Paul Claudel, « placer la capitale d'un pays sur ce couvercle de chaudière ».
Oui, le texte que nous venons d'écouter est très, très beau. Il est lu très calmement par Claudel. C'est à travers les villes en flammes. C'est un texte magnifique et il est magnifique parce qu'on sent aussi qu'il a été écrit in situ, sur le lieu même du désastre. Et Claudel a fait de longs kilomètres à pied en écrivant ce texte, en le remâchant d'une certaine manière. Et j'ai toujours trouvé cette attitude admirable du point de vue de l'écriture et aussi du point de vue humain. Le grand séisme de 1923, séisme extraordinairement violent, avait détruit, mais vraiment éradiqué, le mot n'est pas trop fort, la ville de Tokyo et celle de Yokohama en quelques secondes. Et voici notre ambassadeur, Paul Claudel, qui va à travers les villes en flammes. Il est allé sur le terrain et il en a tiré ce texte extraordinaire. Oui.
Et vous, le vendredi 11 mars 2011, vous étiez dans votre petite maison au fond d'une ruelle, en train de regarder les hibiscus, en train d'écouter les oiseaux, quand quelque chose a commencé à bouger.
Voilà, le 11 mars 2011, c'était le début de ce qu'on appelle aujourd'hui Fukushima, qui est donc cette triple catastrophe, le séisme magnitude 9. C'est quand même un des plus gros séismes qui ait jamais existé depuis que les instruments de mesure modernes existent. C'est, je crois, le numéro 4. Mais peu importe, c'était le tsunami avec ses 19 000 morts qui a déferlé en quelques secondes. Et puis, évidemment, la catastrophe nucléaire avec les explosions dans les réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima. Tout cela faisait une cascade de catastrophes. Il se trouve que j'étais là et que j'ai décidé donc de monter sur le terrain pour voir ce qui se passait, pour apporter un peu d'aide, mais dérisoire l'aide. La camionnette que nous avions chargée de vêtements, d'eau, de vivres, elle était surchargée, cette camionnette, mais finalement, l'aide était dérisoire par rapport à l'ampleur du désastre. En revanche, j'espère avoir pu, par ces quelques petites notes que j'ai prises et qui ont donné ensuite le livre intitulé « Fukushima, récit d'un désastre », peut-être c'était la chose la plus importante à faire à ce moment-là, c'était ce témoignage-là. C'est-à-dire que l'aide matérielle est très importante, évidemment, hein, mais l'aide, le fait d'y aller, le fait de discuter avec les gens, le fait de recueillir des témoignages, de se faire le porte-voix de ces gens qui avaient tout perdu, qui étaient des rescapés, des réfugiés, des survivants, c'est tout aussi important de remettre en place une circulation de la mémoire, de la culture. C'est tout aussi important, cette aide symbolique-là, elle est tout aussi importante que l'aide matérielle, en fait.
Et aujourd'hui, en 2015 ?
En 2015...
Toutes les personnes que vous avez rencontrées, donc au moment du désastre et après le désastre,
oui.
Qui ne voulaient pas partir de leur village qui avait été complètement détruit, qui voulaient rester.
Certains ne voulaient pas partir, certains voulaient au contraire partir. Mais aujourd'hui, en 2015, Fukushima continue. Fukushima est une catastrophe durable, pour ainsi dire. Et c'est terrible de dire ça, c'est que finalement, nous sommes 4 ans après l'événement. Et depuis 4 ans, finalement, on a oublié un petit peu, le gouvernement japonais remet des centrales nucléaires en marche. L'industrie nucléaire ne se porte pas très bien, mais tout de même, il y a des projets dans le monde de construction de réacteurs en Turquie, par exemple, qui est aussi une zone sismique. La Chine et l'Inde aussi n'ont pas du tout abandonné l'énergie nucléaire. Donc on a l'impression que c'était... Je ne vais pas être trop pessimiste.
On n'a pas tiré les enseignements de la catastrophe.
Alors, je ne dirais pas que c'est une catastrophe pour rien, parce qu'il y a quand même eu... Fukushima a changé des choses. Mais disons que le...
Qu'est-ce que ça a changé?
Par exemple, l'Allemagne sort du nucléaire. Alors, ce n'est pas seulement à cause de Fukushima. Il y a une longue histoire derrière, que d'ailleurs, nous, en France, nous n'avons pas. Et c'est aussi pourquoi nous sommes coincés dans cette énergie. Mais donc, ça a changé des choses. Je pense que ça a changé beaucoup de choses. Par exemple, avant, la doctrine officielle quand même de l'industrie nucléaire, c'était qu'un accident n'est pas possible. Statistiquement, le chiffre est tellement bas qu'on ne peut pas en tenir compte et qu'un accident n'aura jamais lieu. Alors là, il y a eu on s'en souvient peu, mais c'était la doctrine officielle. Avant Fukushima, c'était ça. Un accident n'est pas possible. Alors, il y a des milliers d'exemples où cette phrase a été prononcée par les plus grands scientifiques de l'industrie nucléaire. Aujourd'hui, ça a changé. Puisqu'aujourd'hui, virage à 360 degrés ou à 180 degrés plus exactement, c'est-à-dire une complète volte-face. Oui, l'accident est possible, mais nous faisons tout pour vous en protéger, évidemment. Donc, il y a des choses qui ont changé. Disons que la configuration générale, c'est-à-dire la prise de conscience que vraiment cette industrie est dangereuse, nocive, et qu'il y a moyen de faire autrement, et que finalement, le nucléaire est une vieillerie, c'est ce qu'il faut dire. C'est une vieillerie technologique. Eh bien, cette prise de conscience-là, à vrai dire, en France, en tout cas, je parle pour la France, elle n'a pas vraiment eu lieu.
En tout cas, dans votre texte, vous semblez quand même nous mettre sur la piste d'une société de caste au Japon qui correspond aussi au fonctionnement de la pré-catastrophe. Je pense particulièrement à ces ouvriers du nucléaire qui ne sont pas employés dans les usines nucléaires, mais qui sont externalisés, qui prennent les plus grands risques et qui sont comme des espèces de vagabonds à la périphérie du système japonais extrêmement hiérarchisé, mais qui quand même sont au cœur du fonctionnement.
Exactement. Il y a un écrivain japonais qui avait écrit un livre qui s'appelait « Les gitans du nucléaire ». Un livre d'ailleurs qui n'a pas été traduit, comme c'est étrange en français. Mais alors, vous avez tout à fait raison. Le seul bémol que je mettrais, c'est que ce n'est pas du tout, à mon avis, une spécificité japonaise. C'est-à-dire qu'en France, on a exactement la même chose. On a de la sous-traitance à n'en plus finir en France. Et en cas d'accident ou en cas de catastrophe, mais même de simple accident, eh bien, nous retrouvons exactement les mêmes fonctionnements, les mêmes structures, les mêmes dysfonctionnements surtout. Donc, c'est un système qu'il faut penser dans sa globalité, dans son internationalité. C'est un système qui à la fois est porteur d'une grande force identitaire nationale. Hein, la force nucléaire, c'est quelque chose dont la France a fait un de ses piliers hein, au niveau national. Et en même temps, c'est quelque chose qui fonctionne dans tous les pays à peu près de la même manière. Voilà. C'est ce que nous avons essayé de montrer dans un film tout récent. Le nouveau film de Kenichi Watanabe, dont j'ai écrit le texte, qui a été coproduit par Arte et Camille Productions, qui vient de sortir là. Ce nouveau film s'appelle Terre nucléaire. Et dans ce nouveau film, nous faisons justement un comparatisme entre la France, le Japon et les États-Unis. C'est les trois grandes puissances nucléaires. Et nous montrons comment, par ce comparatisme triangulaire, ce nouveau commerce triangulaire, si vous voulez, nous essayons de montrer comment les mêmes structures sont à l'œuvre dans chacun des trois pays. Il y a bien quelques spécificités, évidemment, en fonction de l'histoire et de la géographie de chacun de ces pays. Mais quand même, on est face à un système, on est face à une organisation dont on peut à la fois décrire et analyser le fonctionnement en termes homologues. Voilà.
Nous allons écouter la voix de Patrick Chamoiseau. C'est au micro de Paul Ajat qui va parler de son rapport au livre « Sorte de refuge ». C'était le 4 novembre 1990.
Les livres, c'était une sorte de refuge lorsque je me retrouvais chez moi que j'avais une douleur quelconque, une nostalgie, mal-être. C'était avec les livres que je me retrouvais, mais jamais je n'aurais pensé qu'il y aurait pu avoir dans les livres une perspective quelconque. Parce que c'était deux mondes différents. Il y avait le monde des livres, des lectures, mon univers livresque, et puis ma vie. C'est un peu un fonctionnement schizophrénique, mais qui caractérise pratiquement tout Antillais, et qui caractérise beaucoup d'écrivains antillais qui écrivent en français dans un monde et qui sont dans leur vie dans un autre monde.
Je pense que vous êtes un frère de Patrick Chamoiseau et que pour vous aussi le livre est un refuge et que vous n'avez peut-être pas encore véritablement compris à quel point vous étiez un écrivain. On a l'impression que vous le découvrez un peu en cheminant dans l'écriture de ce dernier livre, Mémoire d'Outre-mer, Michaël Ferrier?
Alors, un frère de Patrick Chamoiseau, j'en suis très flatté. C'est en tout cas un grand ami que je salue, très affectueusement. Et est-ce que je suis en train de découvrir que je suis écrivain? Je dirais, enfin, peut-être, mais peu importe, je dirais, l'image de l'écrivain ou la fonction de l'écrivain ou le statut de l'écrivain, c'est quelque chose qui fondamentalement ne m'intéresse pas énormément. Je peux m'en servir, si vous voulez, je suis aussi professeur de littérature à l'université de Chuo à Tokyo. Je peux m'en servir dans mes cours, oui, mais disons que quand j'écris un livre, je ne me pose jamais cette question de savoir si je suis en train de faire une œuvre d'écrivain. Je pense que là, ça serait le meilleur moyen de tout rater, de tout bâcler. Non, il faut garder, exactement comme l'acrobate qui va faire son saut périlleux, s'il commence un peu s'il commence à avoir trop conscience de tous les paramètres qui entourent son saut, il va le foirer. Donc moi, je pense pour ça qu'il faut un peu il faut un point aveugle aussi dans l'activité d'écrire. Et donc, toute cette mousse qui se fait autour de la figure de l'écrivain, je dirais, elle ne m'intéresse pas fondamentalement. Voilà. Parce que écrivain, finalement, il y a des tas d'écrivains très différents. Je pense qu'on ne fait pas le même métier selon qu'on écrit tel ou tel type de roman, par exemple, ou selon même la place qu'on réserve à l'activité d'écriture dans ses occupations ou dans son statut social.
Et la pensée archipélique dont se réclamait Édouard Glissant, vous l'endossez à votre tour?
Oui, parce que d'abord parce que moi, je suis né à Strasbourg, c'est pas une île, hein, mais après j'ai fait effectivement...
Quoique, il y a des îles.
Oui,
Strasbourg.
Dans Strasbourg, exactement, oui. Et puis, je vis dans une île, je vis dans un archipel depuis très longtemps. Et alors, mais c'est la même façon d'appréhender les choses, c'est-à-dire, lorsqu'on vit dans un archipel comme ça, il y a certaines personnes qui parlent de l'esprit insulaire, voilà, qui serait une espèce d'esprit de renfrognement ou de renfermement, si vous voulez. Or, moi, je trouve que l'esprit insulaire, oui, ça peut être ça, évidemment, mais c'est aussi une ouverture incroyable, une ouverture en archipel, justement, à d'autres cultures, à d'autres langues, au passage des vents, à tous les accidents du climat. Donc, on peut toujours lire l'île, la fonction archipélique, comme quelque chose qui est soit ouvert, soit fermé. L'important, finalement, c'est d'y être et d'y vibrer. Voilà. Moi, je crois beaucoup plus en la vibration des choses qu'en leur fixité dans une formule, même une formule très belle, comme la condition archipélique.
Dernière question, Michaël Ferrier. Dans l'île de Madagascar, votre grand-père Maxime a fait édifier 3 tombes identiques au bord de la mer, l'une pour lui, la seconde pour son meilleur ami et la troisième?
Eh bien, la troisième, il faudra attendre la fin du roman Mémoire d'Outre-mer pour le savoir. Disons qu'il y a beaucoup de cadavres dans les placards de l'histoire. Il arrive aussi qu'il y ait quelques tombes et que ces tombes renferment des secrets ou des trésors inavouables.
Eh bien, merci et bravo pour le suspense, Michaël Ferrier.
Merci à vous.
Tous les livres de Michaël Ferrier sont publiés chez Gallimard dans la collection L'Infini. Le dernier s'intitule Mémoire d'Outre-mer. Merci à Corinne Amar, Élodie Royer, Julien Rosa, Olivier Dupré, Anne Kobilac. Bonne fin de soirée à l'écoute, bien sûr, de France Culture.